Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec autour de la table Victor Pourchet, Jérôme Lavrieux, notre propriétaire de gîte, l'ancienne avocate Yael Mellul et le grand reporter, notre Albert Londres à nous, Baptiste Desmonté, bientôt paysagiste et reporter.
Voilà.
Bah oui, écoutez, ce sont les doubles casquettes d'Estelle Midi. Voilà. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera de Jean-Luc Mélenchon, on parlera d'enfants en tenue militaire lors d'un spectacle de fin d'année, ça a pas mal choqué. Ces images. Et puis une comédie musicale sur l'été 80-18 à 13h30. 348 taxes en France. Nous sommes les champions d'Europe de la taxe. Est-ce que notre administration est devenue folle? Est-ce qu'il faut faire table rase de tout ça? On en débat avec vous à 13h30 au 32-16 et sur le WhatsApp, hein, Victor.
Avec beaucoup de messages encore et on vous attend toujours au 06 12 424 424.
On parlera également de nos enfants. L'OMS qui recommande de faire 3 heures d'activité physique pour les petits de 1 à 4 ans, d'activité physique intense ou modérée. C'est pas du tout ce que l'on fait. Est-ce qu'il faut forcer nos enfants à marcher et éviter les vélos cargo, les draisiennes ou encore les globeurs? Eh bien, on en parlera ça à 14h. Et puis juste avant, 13h50, le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Ça va, Estelle?
Mais oui, et vous?
Ouais, écoutez, super. Ce week-end nous a fait du bien.
Oui, tout à fait.
Vous avez encore fait des glaces, c'est ça?
Comme chaque week-end.
Double casquette, on parlait double casquette. Journaliste.
Je suis glacière, mais tout à fait.
Et oui, elle a testé la glace rhum raisin. Mais
non,
elle n'a fait que rhum, pas d'alcool dans mes glaces.
Pas du tout.
Bon, on a hâte de goûter sa glace signature, Spéculoos. Jérôme Lavrieux, je vous vois un peu stupéfait.
Et Nutella.
Oh là
que
là,
du léger.
Magnifique.
Du léger.
On a hâte. Allez, on écoute un premier message.
Bonjour Estelle, c'est Jordan Bardella. Voilà, on est au Grand Prix de Monaco avec l'amour de ma vie, celle qui fait rayonner mon existence, la seule, l'unique, Maria Carolina de Bourbon, de Saxe, de Sardaigne, de quoi déjà? De Sicile. Non, désolé, m'amour, j'ai du mal avec les pays étrangers. Non, juste pour vous dire que dès demain, je vous annonce mon programme, un programme pour les classes populaires, aux petits revenus et... Je vous laisse, on part sur le yacht. J'arrive, ma chérie.
Ah, il va être sympa son programme pour les classes populaires. Non, mais c'est important de se reconnecter avec le peuple.
Mais bien sûr, hein, mais
voilà,
oui.
Vous faites jamais de l'hélico le week-end pour vous déplacer?
Non, jamais, non. Je fais des glaces.
Glace. Bon, allez, rendez-vous à 13h50.
Voilà, le répondeur de Pierre-Antoine Demcourt. Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC. Jean-Luc Mélenchon est-il le meilleur candidat à gauche pour la présidentielle? À Saint-Denis, hier, le chef de file des Insoumis a organisé son premier meeting de campagne et s'est présenté comme le seul candidat à gauche. La primaire, c'est fini, a-t-il lâché? Et pour Charles Consigne, l'avocat des GG, Jean-Luc Mélenchon a toutes ses chances.
Il est quand même très doué politiquement. D'abord, il a réussi à ne pas se laisser ringardiser malgré son âge avancé et l'âge encore plus avancé de ses idées et le fait qu'il en est à sa quatrième candidature, sauf erreur. Ça. Or, en faisant monter des jeunes, donc des Panot, des Bompard, des Clémence Guettet.
La nouvelle vedette, c'est Bali Bagayoko, le maire de Saint-Michel.
En faisant élire des profils nouveaux, en ayant une vraie radicalité sur le fond et en ayant une force militante très organisée. Moi, je pense que son programme est catastrophique pour la France, mais je lui reconnais du talent politique.
Jérôme Lavrieux, Jean-Luc Mélenchon est-il la meilleure chance à gauche?
Je crois que c'est la meilleure chance pour l'extrême droite. Parce que si Jean-Luc Mélenchon se qualifie pour le second tour de la présidentielle, on aura du 70-30 dans l'extrême droite. Donc c'est le meilleur, c'est le candidat rêvé pour Bardella, sa maman, enfin tout le monde. Donc c'est vraiment le candidat rêvé pour l'extrême droite. Voilà, c'est la meilleure chance pour l'extrême droite, Mélenchon.
Est-ce que c'est la meilleure chance pour la gauche, Yael Mellul?
Je pense que c'est lui qui aurait le plus de chance, ouais, en effet. Ce serait pas une chance pour la France, mais pour la gauche, oui. Alors j'aime bien parce qu'il est un peu dictateur, mais un peu comme tous les autres hommes politiques, parce qu'il y a des primaires nulle part, en réalité, dans aucun parti politique. Hein. Donc lui, il s'auto-proclame candidat.
Oui, mais maintenant, c'est pas une surprise.
Non, c'est pas une surprise du tout. Maintenant, je sais pas du tout comment ça va se passer avec Glucksmann.
Surtout, on sait pas du tout si Glucksmann va se présenter. Déjà.
Bah oui, il attend les sondages, bien sûr. Bon, oui, voilà. C'est la nouvelle démocratie.
Il y a Mathieu Pigas également.
Ah oui, Mathieu Pigas. On ne sait pas. Il a dit
Jérôme Guedj.
Ouais.
Glucksmann, le Jacques Delors du 21e siècle.
Voilà, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Jacques Delors. Beaucoup de gens
allait devenir président, mais qui ne s'est pas présenté.
Oui, mais alors, non, mais Jacques Delors, il y avait quand même une hype autour. C'est-à-dire que quand même, il y avait un élan, il y avait un espoir de beaucoup de Français.
Ouais.
Il ne s'est pas présenté, mais il aurait pu être élu. Bon, là, pour l'instant, Raphaël Glucksmann veut voir s'il suscite un espoir.
On ne saura jamais, comme des Esquins, on ne saura jamais.
Il avait quand même Jacques Delors, il y avait quand même quelque chose. Le jour où il a dit à Anne Sinclair, je ne me présente pas, il y avait des millions de Français qui attendaient quand même. Est-ce qu'il y a des millions de Français qui attendent de savoir si Raphaël Glucksmann va te présenter ou pas? C'est une autre...
Ouais, là, un point pour vous.
Voilà, très bien. Voilà. Baptiste Desmontiers, avantage ou inconvénient Jean-Luc Mélenchon pour la gauche?
Compliqué. Peur, hein. Jean-Luc Mélenchon, le problème c'est qu'effectivement il est excellent en campagne, on le sait.
C'est vrai.
Il part bas et il est très haut. Là, il commence déjà fort. C'est clairement
pas d'avis, quoi.
C'est clairement pas. Non, moi je pense que c'est. Et je suis d'accord avec Jérôme. Je pense que c'est la meilleure chance pour que l'extrême droite passe. D'une manière générale, si on regarde le fonctionnement de LFI. Je me dis si c'est ça demain la politique en France, c'est-à-dire un système de dictature totalitaire, parce que Mélenchon, il est quand même loin de la démocratie dans son propre camp, il est probablement très capable de gagner. Ça me fait très peur et il est surtout très capable de faire gagner l'extrême droite. Donc, Glucksmann, il y a personne à gauche là. Moi, je vous ai dit de toute manière, la gauche ne sera pas au second tour. Moi, c'est mon pari. La gauche et l'extrême gauche ne seront pas au second tour. Pour moi, on va se taper Bardella
Oui, mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il est identifié. On sait qu'il fait une super campagne. Aujourd'hui, à gauche, les autres ne sont pas identifiés.
72% d'opinion défavorable.
Le chiffre qui...
Oui, enfin, si c'est 28 de favorable, ça te suffit pour être au second tour.
Oui, mais il va flinguer la gauche. Il va flinguer la gauche, la gauche républicaine.
Il y a de mieux à gauche aujourd'hui.
Il n'y a personne. Mais bon, derrière, lui, c'est une machine à perdre. Il a déjà bien perdu.
Ah, Dominique de Villepin peut se présenter aussi.
Mais il est à gauche, Dominique de Villepin.
Bah, il a quand même des positions bien, bien à gauche.
Oui, c'est vrai.
Il était à droite avant, on ne sait plus trop. Incarne vraiment la gauche.
Le côté de Villepin à gauche, c'est vrai que ça fait un peu bizarre.
Il devrait y avoir la déclaration de patrimoine, je peux te dire que tout d'un coup...
Il a moins d'argent depuis qu'il a rendu les petites statuettes.
Il nous vendait une stature et on n'a plus que des statues.
Oh, elle est belle.
Magnifique, Jérôme. Les GG ce matin sur RMC, des enfants en tenue militaire lors d'un spectacle de fin d'année, est-ce choquant? La scène se passe dans une école maternelle de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Six enfants vêtus de t-shirts militaires, de bandeaux sur le front et de lunettes de soleil arrivent sur scène avec des pistolets en plastique et se mettent à danser sur un morceau de rap. Le ministre de l'Éducation nationale a dénoncé sur Twitter des images choquantes, sentiments partagés par Bruno Poncet, le cheminot des GG.
En 2026, avec tout ce qui se passe autour de l'enfance, on s'amuse à donner des armes à des gamins dans l'école. Les gamins, ils ont déjà accès à des armes, des jouets. On a tous eu des pétards, des machins. Tu vois, quand t'es gamin, l'école, c'est quand même le lieu où t'avais même pas le droit de venir avec quoi que ce soit. T'es qu'on jouait jamais avec des trucs comme ça. Et là, aujourd'hui, tu fais faire des trucs comme ça aux gamins. Moi, ça me choque un peu en me disant que c'est quand même pas l'endroit, l'école, où tu dois un peu pousser les gamins déjà vers les armes, la violence. Parce que qui dit arme dit violence, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà. Tout que j'ai vu, il y a un pistolet avec des flèches. Je pense pas que le gamin soit retenu de tirer une flèche sur ses potes. Donc moi, je trouve que c'est vraiment pas l'endroit de l'école de faire des trucs comme ça.
Ça vous choque, de voir des enfants en tenue militaire pour un spectacle de fin d'année?
C'est
ça grave, Baptiste Desmontiers. Je vois rigoler là.
Moi, ma fille, c'est un déguisement à base de rouleaux de PQ et de papier crépon. Elle fait la libellule.
C'est sûr que
le truc est pas pareil.
C'est un autre délire.
Moi, je trouve ça, c'est pas un super exemple. Après, faut pas non plus péter un plomb sur les pistolets en plastique. Dans toutes les fêtes de l'école de France, les gamins qui peuvent avoir des petits bons là pour avoir des cadeaux, ils ont des pistolets à eau. Faut pas non plus partir en vrille. Après, c'est vrai que le côté militaire, rap, machin, c'est vrai que c'est pas génial. Moi, je préfère la libellule, perso.
Dans la théâtralisation de la violence, en fait, pour des gamins de maternelle. Oui, mais enfin, on n'a pas besoin de ça. Qu'on reste dans les contes de fées, c'est des enfants, quoi. Qu'on fasse à la rigueur les cow-boys. Je sais pas, moi,
les cow-boys, ils ont des pistolets.
Les Indiens, c'était un génocide.
Les Indiens, quoi.
Et ça s'est pas très bien terminé pour les Indiens, Yael, non plus.
Mais j'aurais bien connaître les paroles de la chanson de rap.
On va la retrouver, ça s'appelle Chargeur.
Super.
Non, mais c'est pas le délire des gamins. C'est le délire de l'enseignant ou du responsable qui dit, tiens, je vois pas le problème, c'est mon délire, je vais faire... On en voit plein des images en Iran avec des gamins, un bandeau sur la tête, déguisé en militaire. Ouais. Là, ce week-end, il y avait la fête de la jeunesse de Corée du Nord. Ils avaient le même âge, ils étaient déguisés en militaire. Et l'adulte qui fait ça, à un moment, il n'y a pas un adulte qui se dit...
Non mais...
Bon, c'était un délire, mais on va pas le faire, en fait.
Non mais Jérôme, si ça avait été un spectacle avec des shérifs, effectivement, des cow-boys, t'aurais dit quoi ? T'aurais dit quoi ?
Ah bah si c'est pas juste l'Indien qui perd à chaque fois, ça me pose pas de problème. Mais là on est vraiment dans un truc en ce moment. Où est le délire de l'enseignant qui a voulu faire ça ?
Enfin, moi,
le mec qui se
père,
dit pas, bon super, c'est une bonne idée, mais on va pas le faire quoi. Ouais.
Franchement, en tant que papa, moi j'arrive, je découvre ça le jour de la fête de l'école. Honnêtement, je trouve ça un peu nul. Je me dis, ouais, franchement, gars, t'as pas moyen de trouver un truc un peu plus cool, un peu plus de l'orage, un
peu
plus sympa.
Tu préfères la libellule, quoi.
Ouais,
je préfère que tes enfants fassent la libellule.
Elle est ridicule, mais elle est magnifique.
Ah ouais.
D'accord. Ah.
Bah oui, c'était chargé.
Oui, pas de chargeur, excusez-moi. Bon,
ouais. Chargé. C'est le tube le plus pénible de l'été dernier.
Là, je voyais, elle est pas violent, fan.
Quand même. Pour des enfants, c'est pour des tout petits, oui, c'est super violent. Ça va pas, non?
Bah voilà, a priori, ça
mais
va.
C'était du Pierre Perret à l'époque, du Michel
Fugain.
Oui,
bah, excusez-moi, Yael, si bah je puis me permettre, il y avait moins de rap à votre époque, Yael. Vous voyez,
même oui. Pas de rap à ton époque, ça n'existait pas encore.
C'était autre chose,
bien.
Oui, mais bon, bah voilà.
Prendre un enfant par
là. Yves Duteil, malheureusement.
Ah, j'adorais.
Allez. Les GG, ce matin sur RMC, la transparence salariale peut-elle vraiment réduire les inégalités entre les employés? La France avait jusqu'à hier, moi elle avait 3 ans en fait, hein, pour intégrer la directive européenne sur la transparence salariale, mais le calendrier parlementaire et les désaccords entre syndicats et patronats ont retardé le vote de la loi. Ça ne se fera pas, en tout cas aujourd'hui. Et pour Barbara Lefebvre, enseignante des GG, il faut absolument accélérer le mouvement.
La transparence, tant qu'elle est cadrée et qu'effectivement donner aux salariés le droit de connaître la moyenne des rémunérations des collègues qui font le même emploi que toi, je pense que ça peut être utile parce qu'excuse-moi, mais dans le privé, et d'ailleurs ça devrait être pareil dans le public, les grilles de méritocratie, c'est-à-dire qui fait que par rapport à ton salaire de base, tu vas gagner un peu plus que le voisin, ben, moi je trouve que c'est normal que ce soit transparent. Les critères qui te permettent de bénéficier d'une prime parce que tu as eu plus de résultats, en général, il me semble que dans les entreprises, les gens savent pourquoi ils ont gagné un peu plus, parce que c'est à tel pourcent d'intéressement, etc. Donc il y a déjà une certaine transparence. Je pense que rendre cette transparence légale et obligatoire, personnellement, ça ne me gêne pas.
Est-ce qu'il faut accélérer le mouvement Yael Mellul pour cette loi sur la transparence salariale?
Bah, ça fait quand même déjà 3 ans qu'hein, ça devrait être appliqué. Ouais. Donc
on est assez lent.
Voilà, il faut se remarquer. Il serait quand même un petit peu temps, oui, en effet, que ce soit appliqué. C'est la moindre des choses. Je veux dire, il faut qu'il y ait la transparence, évidemment, des salaires.
Mais c'est pas parce qu'il y a transparence qu'il y aura égalité. Hein.
Bah non, parce que Yael gagne plus que moi. Et on est transparent, nous on le sait.
Bah oui,
non, mais transparence, ça veut pas dire égalité, parce qu'en fait, si par exemple,
si parce que ça va pousser l'employeur sera quand même un peu contraint de mettre à niveau, et ça peut permettre aussi de pallier les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Donc oui, il faut le faire, mais enfin je veux dire,
bah, on traîne des pieds.
Oui, mais enfin c'était que sur ça, enfin je veux dire c'est encore sur ça en fait.
Eh oui, Jérôme Lavrieux.
Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais quand il n'y a pas de transparence, les victimes, c'est toujours les femmes. Les inégalités salariales, c'est toujours les femmes par rapport aux hommes.
Pas sur ce plateau, mais c'est...
Oui, d'accord. mais donc, je suis pour le faire. Mais 3 ans pour transposer ça, c'est hallucinant. C'est le mal français. On tape toujours sur l'Europe. L'Europe nous fait faire un progrès. Et on met 3 ans parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord chez nous. Et en plus, les autres pays vont le transcrire en 3 pages et nous, on va le transcrire en 200 pages.
Ah bah
on
ne
va rien comprendre au schmilblick.
Avec 18 normes, ouais, etc. Voilà. Et
on va mettre une taxe dessus. Une petite passe.
Une pénalité.
C'est sûr que oui, il va y avoir des pénalités, des taxes, évidemment, parce que nous sommes champions d'Europe de la taxe. On en parlera d'ailleurs dans un instant. Et on va terminer avec le Morning RMC, une comédie musicale sur l'été 98. Est-ce que ça vous tente? 28 ans après la victoire des Bleu, le 12 juillet 1998, le producteur Farid Benlaga sort un nouveau spectacle musical sur l'équipe de France, mais aussi sur l'ensemble des Français, leurs émotions, leur destin. Écoutez tout de suite les précisions de Mathieu Béliard.
chante, la bande-son devrait faire revivre les tubes, les succès de l'époque. Le producteur évoque NTM, IAM, sur scène une vingtaine d'artistes sont envisagés, chanteurs, comédiens, danseurs, une mise en scène qui mêle musique, vidéo, théâtre. C'était aussi l'avènement de la French Touch. Le calendrier est déjà fixé, écriture du spectacle 2026, première chanson dévoilée en 2027, lancement 2028 avec une tournée, oui, pile pour les 30 ans, Sacre des Bleus.
Une comédie musicale sur 1998, est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 12 juillet 98, Baptiste Desmontiers?
Très bien, j'étais en Irlande et j'étais avec une Yolène, voilà, une charmante jeune fille qui s'appelait Yolène à l'époque. J'avais 17 ans, je vivais mon été insouciant. On avait regardé la finale de la Coupe du Monde, mais j'étais pas hyper focus football à l'époque. Mais oui, c'était une très belle époque. J'étais focus 17 ans, quoi. Je vivais ma vie et je me souviens très bien. Et je me souviens très très bien avec beaucoup d'émotion. Du coup, j'ai très envie de cette comédie musicale pour revivre ces
voilà, pour revivre Yolène.
C'est 100% vrai ce que je vois.
Ce sera pas au casting, Yolène.
Yael Mellul, vous avez regardé cette finale?
Ah oui, j'étais à fond. Ah, bon, ah j'étais à fond, mais vraiment. Pourtant, je suis pas super foot.
C'est ça.
Mais là, je sais pas. J'étais à fond. J'étais enceinte.
Ah oui.
Je me souviens. J'ai accouché au mois de novembre, donc j'étais quand même. En plus, il faisait chaud. Donc j'étais pas.
Oui, c'est en juillet, oui.
Voilà, j'étais pas en super forme, mais j'étais un grand moment.
Vous l'avez vu où ce match?
J'étais à la maison parce que j'étais un peu fatiguée. J'étais à la maison avec mon mari, mais on est quand même après allé dans les rues festoyer.
Ah, pas de sort de mortier, rien.
Non, c'était vraiment un grand moment d'union. C'était formidable.
Eh oui, exactement.
Que de la joie, du bonheur à l'état pur. C'était formidable.
Vraiment. Jérôme Lavrieux.
Alors moi, j'étais dans mon bureau à l'hôtel de ville de Saint-Quentin. J'étais directeur de cabinet à l'époque, et comme la demi-finale s'était très mal passée. On avait une plage artificielle, place de l'hôtel de ville.
Ah oui.
Ils avaient eu la bonne idée de plusieurs centaines de personnes sauter dans le bassin de natation en demi-finale. Et le bassin avait crevé dans la nuit. On avait eu un tsunami dans la rue Piétode, qui était atroce. Et on a voulu éviter que ça se reproduise à la finale. Donc j'étais de permanence dans mon bureau et à essayer de gérer les conséquences de cette très belle victoire.
Ce ne sera pas dans le spectacle musical. Cette anecdote ne figurera pas.
Trop de détails.
Et puis Victor, vous êtes épané, j'imagine.
J'avais un an, je me souviens de rien. Mais ça avait l'air super en tout cas.
Et j'en avais 29.
Oh mon Dieu. Bah oui, il était pas. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez.
On en a vécu deux des victoires.
La chance.
Ouais, c'est ça.
Parce que toi, la deuxième était.
La deuxième était un peu moins belle pour nous parce qu'on avait vécu la première, évidemment. En tout cas, voilà, comédie musicale sur ce très très bel été 1998. Dans un instant, on va parler de taxes. Et oui, parce que selon une étude, eh bien, il y a 348 taxes en France et peut-être même plus. D'ailleurs, c'est bien plus que nos voisins européens, il n'y en a que 60 en Allemagne. Est-ce que notre administration est devenue folle? Est-ce qu'à un moment, il faut faire table rase de tout ça? Tout remettre sur la table, tout réformer. Est-ce qu'il y a trop de taxes en France? Ben écoutez, on en parle avec vous dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler, 3216.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h28, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours avec Victor Pourchet, avec Jérôme Lavrieux, Yael Mellul et Baptiste Desmontiers. Et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour. Écoutez bien, 348, c'est le nombre de taxes qui existent aujourd'hui en France, selon une étude publiée par le cabinet Tax Policy Associates. La France est la championne d'Europe de la taxation, très loin devant le Danemark et l'Autriche. L'Allemagne ne possède que 60 taxes, c'est donc bien moins que nos 348. Mais on est taxé sur quoi finalement, Victor?
Alors, il y a déjà celles qu'on connaît tous, les taxes sur l'électricité, sur les carburants, sur les cigarettes. Il y en a aussi, alors pardonnez-moi l'expression, mais un peu sur tout et n'importe quoi, payé soit par les contribuables, soit par des entreprises. Je vous donne quelques exemples. Il y a une taxe sur les pylônes électriques des lignes à haute tension. Une autre, oui. Une taxe ski sur les remontées mécaniques. Celle-là, vous ne la voyez pas forcément. Elle est inclue dans le prix des forfaits, en fait. Il y a une taxe balayage aussi pour les grandes villes, payée par les propriétaires pour qu'on vienne balayer les trottoirs. Et puis une dernière, alors celle-là, je ne la connaissais pas, taxe flipper et babyfoot pour les bars qui veulent en installer dans l'établissement. En fait, elle est surtout là. La spécificité française, c'est qu'on a beaucoup de taxes en nombre, mais chacune individuellement ne rapporte pas toujours tant que ça à l'État. D'ailleurs, la Cour des comptes s'est penchée sur ce qu'elle appelle des impôts à faible rendement, ceux qui rapportent moins de 150 millions d'euros par an. Parfois, ils atteignent même à peine le prix qu'ils coûtent à gérer au niveau niveau administratif. Dans un rapport de l'an dernier, la Cour des comptes, elle a identifié 243 taxes qui posent question et elle a proposé 3 scénarios pour pouvoir supprimer les moins efficaces.
Mais comme ça, il en resterait que 105. C'est déjà ça.
Il en resterait pas mal.
Alors, 348 taxes en France, mais est-ce qu'on est devenu fou dans ce pays? Mais Jérôme Lavrieux. Et encore, c'est 348 selon ce rapport-là, mais selon l'IFRAP, c'est plus de 430.
Il y en a beaucoup plus.
Non, mais
j'ai vérifié le rapport, il y en a une, moi j'ai découvert quand j'ai commencé à travailler dans une mairie, c'était la taxe sur les enseignes saillantes.
Pardon.
Voilà. C'est-à-dire qu'un commerce qui met une enseigne le long de la façade, il paye pas de taxe. Si elle est perpendiculaire, il paye une taxe. Et dans la mairie de Saint-Quentin, on avait cette taxe. Et elle rapportait, il y avait un type chargé de faire le tour de la ville en permanence pour savoir si un con n'avait pas mis une nouvelle enseigne. Et il coûtait 10 fois plus cher le type que n'a jamais rapporté cette enseigne.
Exactement.
Et on a voulu la supprimer, la taxe. Et là, les services fiscaux ont dit, vous avez pas le droit de la supprimer.
Non, pourquoi?
Ah bah parce que c'est le Parlement qui l'a voté.
Ah oui, c'est une loi.
Du coup, on a fait juste la mettre à un taux zéro. Et du coup, on envoyait une lettre tous les ans pour dire ce sera un taux zéro, vous n'avez rien à payer. Ça nous coûtait un œil l'équivalent d'un euro.
En fait, on paye des gens aux impôts pour aller vérifier la collecte de la taxe sur les enseignes.
La collectivité payait et ça coûtait plus cher que ce que ça rapportait. Oui,
d'accord. Bah écoutez, c'est formidable. Génial.
C'était totalement ridicule.
Yael Mellul, est-ce qu'à un moment, il faut faire table rase? C'est-à-dire, on supprime tout et puis on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Enfin, on essaie de rationaliser tout ça quand même, non?
Mais oui, mais ce qu'il y a de formidable en plus, c'est qu'on n'arrive même pas à avoir un chiffre exact. Des impôts et des taxes, c'est ça qui est formidable en fait. C'est que là, le chiffre qu'on avance de 348, c'est une estimation. Donc c'est dire l'état de folie dans lequel se trouve notre pays, parce qu'en fait c'est un choix politique qui est fait. À chaque fois qu'il y a un problème, bah la solution qu'on apporte à ce problème, c'est la création d'une nouvelle taxe. Mmh. Alors, c'est comme ça qu'on croit pouvoir résoudre des problèmes. Avec l'usine à gaz qui va avec, tout le millefeuille administratif, employer des gens, c'est une folie furieuse. Mmh. Donc, on attend, moi, en tous les cas, ce que j'attends des candidats à la présidentielle, parce que là, bon, j'imagine que c'est pas en un an qu'on va faire le ménage fiscalement, ni ça, ni sur autre chose d'ailleurs, d'avoir effectivement un tri qui soit fait sur les taxes qui rapportent, on va dire, le plus. Et
les
autres
candidats qui proposent de taxer encore plus.
Oui, mais enfin bon, on va dire qu'on, enfin j'espère que c'est ceux qui ont le moins de chances d'accéder à la fonction suprême, on va dire pour les gens sérieux. Voilà, il faut qu'ils nous proposent quelque chose de sérieux. Faut faire un tri, faut dégager tout le superfétatoire. Faut dégager. Faut faire le ménage.
Mais oui, au Danemark, par exemple, ils prélèvent quasiment la même chose que nous sur les taxes, mais ils en ont 200 de moins. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui gêne finalement, c'est pas les taxes qu'on peut comprendre. Mais c'est celle, effectivement, le flipper, le baby-foot, c'est le nombre de taxes, et en plus, qui rapporte rien.
Mais en plus, c'est un choix politique qui est complètement imbécile. Parce que plus on taxe les ménages, parce qu'on arrive dans une situation aujourd'hui où on est au bord de la récession, quoi. Mm-hmm. Là, on voit qu'il y a une diminution flagrante du pouvoir d'achat. C'est avéré. Donc, c'est un très mauvais choix politique. Il faut aujourd'hui, il faut que les ménages soient moins étouffés fiscalement pour qu'ils puissent consommer en fait.
Baptiste Desmontiers.
Et en fait, il y a aussi un autre problème, effectivement, on en parle depuis tout à l'heure, c'est le coût du prélèvement de ces taxes. Oui. En fait, on a tellement de taxes, tellement de services, avec donc des duplicata, des personnes qui sont, comme tu le disais, dans une petite commune, une personne chargée de collecter une taxe. J'ai fait une petite recherche avant, pour 4 euros collectés, il y a à peu près 1 euro qui sert à la collecte de ces taxes. Donc en réalité, au-delà du côté aberrant, du millefeuille, de la multiplication des taxes, le problème, c'est que c'est pas intéressant financièrement. Et puis, moi, j'ai foi quand même en l'avenir, c'est que le manque d'intelligence parfois de nos politiques sera probablement pallié par l'intelligence artificielle. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans la rationalisation des process grâce à l'intelligence artificielle. Je pense
espérons,
je ne sais pas, mais en tout cas l'IA peut être un outil pour éviter de dépenser autant d'argent pour prélever une taxe, enfin voilà, essayer de rationaliser tout ça.
Ils arrivent,
non mais on met tout ça là, tu mets tout ça dans une IA, tu fais mouliner et ça va nous sortir un truc.
Je loue
Jean
des
Lavrieux. Oui.
Je paye une taxe de séjour à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi. En fait, je loue que par Airbnb. Donc Airbnb verse directement la somme à l'intercommunalité. Mm. Et ben l'intercommunalité dit ah oui mais nous notre logiciel est pas compatible avec le leur. Tous les ans, il faut que je remplisse un tableau à la main.
C'est ça.
Pour mettre les mêmes renseignements.
Tout à fait.
Donc c'est une deuxième taxe parce que le temps que je passe à faire ça. C'est de l'argent que je gagne pas. Et j'essaie de leur faire comprendre que peut-être qu'ils l'ont reçu une fois, deux fois, ça sert à rien. Ah, mais non, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça.
On va pas c'est changer, comme on a des, toujours fait comme
quand
ça.
Quand tu fais des travaux, il faut faire une demande à l'administration fiscale pour être taxé moins parce que ta résidence, elle a ceci, cela.
Oui.
Donc, tu es obligé de remplir à la main au lieu qu'on te dise, j'ai n'importe quoi, c'est 5% et puis basta. Non, là, c'est 10, mais tu peux avoir 5. Donc, mais pour avoir 5, il faut remplir des papiers. Mais c'est aberrant.
On appelle la taxe papier.
Je ne sais pas si vous avez constaté, mais je trouve qu'il y a quand même des petits progrès, notamment sur la déclaration d'impôt qu'on est tous en train de faire ou de finaliser ou qu'on a finalisé.
C'est pas trop lendemain, l'impôt à la source.
L'impôt à la source, mais même je trouve aujourd'hui quand on reçoit nos déclarations d'impôt, il n'y a pas grand chose. En gros, c'est quand même un peu mieux foutu qu'avant.
Je suis d'accord.
Donc, on est peut-être sur la bonne voie.
Oui, mais enfin, tu payes toujours autant, voire plus. Nous sommes avec René qui nous appelle de Cournon-Terral dans l'Hérault. Il est commercial dans l'électroménager. Bonjour René.
Oui, bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Ça vous étonne ce nombre de 348 taxes, René ?
Quand je vois ce que nous, on nous a rajouté comme taxe après qu'on ait fait notre construction avec ma compagne, sincèrement, pas du tout.
Mais alors, racontez-nous ce qui s'est passé.
En fait, nous, on a fait construire donc une petite maison sur un petit terrain, histoire d'avoir notre chez nous avec nos deux enfants tranquilles.
Ouais.
Et on s'est retrouvé après notre construction à devoir payer une taxe sur les eaux usées. Alors ça, on n'était pas au courant.
Ouais.
Donc on nous a dit vous avez quelle surface, vous êtes combien dans la maison, ok, bon ça fait 2 500 euros.
Beaucoup.
Et à côté de ça là dernièrement là je viens d'avoir la deuxième partie de la taxe d'aménagement. Alors la taxe d'aménagement vulgairement pour ceux qui sauraient pas c'est un petit peu le rappel de la taxe d'habitation qu'on paye plus.
Et vous le payez qu'une fois.
Non, en deux parties on la paye.
Sur
2 ans.
Et c'est combien ça René?
Là, moi, je suis sur 1 750 euros par an sur 2 ans.
Ah oui, donc c'est pas la petite taxe, quand même.
C'est pourquoi ça?
Parce que tu n'as pas créé de place de parking en surface publique alors que tu es chez toi.
Tu vois bien que c'est aberrant, Jérôme.
Mais je sais que c'est déconnant.
On n'a pas le choix, les places de parking sont sur notre terrain.
Ouais, c'est bien.
C'est vraiment ça.
Ouais. C'est maintenant au niveau de l'urbanisme, c'est comme ça.
Ça m'est arrivé.
Et du coup, nous, là, bonjour, ça fait temps.
Alors que dans le même temps, on nous demande de ne faire plus d'artificialisation des sols. Oui. Donc ça veut dire on ne doit plus faire de place de parking bitumée. Non, c'est vrai qu'effectivement, là, René, j'hallucine.
Et attendez, René, vous n'avez pas un petit abri de jardin dans votre jardin?
J'ose pas en mettre un, j'ai peur qu'on me demande 2000 balles de plus.
Ah mais oui, mais je vous confirme, il y a une taxe abri de jardin, René.
Bien sûr.
Alors, elle rapporte rien, évidemment. Donc là, ils sont en train de se demander. Il y a deux taxes qui sont en train de se demander s'ils ne vont pas les supprimer. Il y a la taxe sur les yachts, parce que du coup, il n'y a plus aucun yacht qui bat pavillon français. Donc en fait, tous les yachts, alors qu'en plus, c'est quand même des chantiers chez nous et tout, mais ils battent tous pavillon étranger. Donc en fait, on a quand même les yachts, mais on n'a plus de taxes. Donc en fait, ça rapporte rien. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et puis, il y a la taxe abri de jardin, que les gens ne payent pas. En fait, personne se dit, tiens, j'ai un clapier à lapin là, au bout de mon jardin, je vais aller payer une taxe. René.
Évidemment. En tout cas, moi, si j'avais un petit message pour les primo-accédants, prévoyez 10 à 15 % de plus ce que vous empruntez parce que vous êtes pris à la gorge, c'est la sauce.
Voilà. Et si c'est une résidence secondaire, vous aurez en plus la taxe d'habitation qui n'a pas disparu. Qui n'a pas disparu pour tout le monde. Merci René, en tout cas. Et puis, bon courage pour tous ces paiements que vous n'envisagiez pas au départ. Et c'est toujours ça qui passe pas dans la consommation. On devait parler vacances, mais dans les vacances, dans plein de choses en fait. Et ça va uniquement à l'État. Puis, on ne sait pas trop bien comment c'est utilisé du coup. Merci beaucoup René. En tout cas, vous êtes nombreux à réagir sur ces taxes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents de ces taxes, Victor ?
Alors, contents, je n'irai pas jusque-là non plus. Mais on a quand même Nicolas qui nous dit, bien sûr, qu'il faudrait réduire les taxes en France. Mais pour ça, il va falloir aussi réduire la dépense publique. Et ça, personne ne sera d'accord. On a aussi Adrien qui nous dit que pour lui,
Il faut de la dépense publique pour collecter les taxes.
Dans le genre serpent qui se mord la queue, on a Ludo qui dit et une fois qu'on a payé toutes ces taxes, on va demander une augmentation à notre employeur qu'il ne peut pas parce que lui-même nous dit qu'il paye trop de taxes.
C'est totalement aberrant. On voit qu'il y a un truc qui ne va pas. Justement, pour essayer d'y voir plus clair, mais je ne suis pas sûre qu'il va réussir, même si c'est notre invité, c'est Pascal de Lima qui est chef économiste chez Novaminds. Bonjour Pascal de Lima.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Pascal, est-ce qu'en tant qu'économiste, vous dites à peu près comme nous, il y a trop de taxes en France, ou est-ce qu'il y a une logique à tout ça ?
La France caractérise objectivement par une multiplication exceptionnelle des taxes, c'est sûr. Il y a effectivement cette étude qu'il évalue à 348 taxes, hein, l'étude du tax policy associate, mais aussi la Cour des comptes pour les petites taxes qui ressentaient encore 243 taxes à faible rendement en 2024. Donc tout ça, c'est une histoire administrative française qui favorise cet empilement fiscal. Vous savez que la fiscalité française, comme ça a été dit, hein, c'est construite autour de strates successives. Alors à chaque nouvelle priorité publique, il y a un prélèvement qui est dédié, environnement, logement, etc., tourisme, énergie. Et ces taxes, elles sont affectées, si vous voulez. Hein. Ce sont des taxes affectées qui ont contribué encore plus à la multiplication de tous ces prélèvements, puisqu'elles financent directement des agences publiques, des établissements publics, des chambres consulaires, des organismes professionnels. Et donc, chaque affectation crée une nouvelle ligne fiscale. Maintenant, il faut faire attention. Il faut toujours voir un peu les deux côtés du sujet. C'est-à-dire que, évidemment, toutes les taxes... alors, le 348, il peut être trompeur et surestimer la réalité économique, c'est ça que je veux dire. Car toutes les taxes, elles n'ont pas la même importance. Les petites taxes expliquent peu le poids global quand même des prélèvements. Il y a taxes, impôts et cotisations sociales, c'est très différent. C'est à peu près 0,5%, je dirais, de l'ensemble des prélèvements obligatoires. Mmh. Et le nombre de taxes ne mesure pas la pression fiscale. C'est juste un sujet économique qu'il faut un petit peu nuancer. Moi, pour moi, le vrai problème central, c'est ce délire de la complexité.
C'est-à-dire qu'on est vraiment
dans un système complètement où le principal coût des petites taxes, c'est pas en tant que tel budgétaire, on va dire, 70%, alors je n'ai pas la TVA dedans, mais 70%, c'est quand même des petites recettes.
Parce que la taxe baby-foot, en vrai, Pascal de Lima, à quoi ça sert?
C'est un truc assez important.
Non mais une taxe baby-foot, une taxe enseigne perpendiculaire, on est obligé parce qu'on peut pas supprimer ça, Pascal.
Mais si, mais il y a aussi la taxe sur le foncier non bâti, par exemple, qui s'ajoute à la fiscalité foncière agricole ou rurale, elle pourrait très bien être intégrée dans la taxe foncière. J'ai même vu des taxes sur les panneaux, sur les enseignes, sur les remontées mécaniques, alors il faudrait confirmer, sur les eaux usées, sur les eaux minérales, enfin voilà, il y a certainement moyen de faire fusion. Mais si vous faites fusion de taxes, vous faites fusion de ressources humaines, vous faites fusion de processus, et donc il y a des gens qui ne voient pas un intérêt, si vous voulez, hein, forcément.
Oui, on va peut-être supprimer quelques emplois de collecteurs de taxes. Bon, oui, mais à un moment, peut-être qu'il va quand même falloir le faire. En tout cas, merci beaucoup, Pascal de Lima. Je vois que vous aussi, en tant qu'économiste, vous êtes désabusé quand même par le nombre de taxes en France. Mais qui ne l'est pas? Peut-être Christophe, que nous avons en ligne. Merci, Pascal de Lima. Christophe, qui est chef d'entreprise dans le bâtiment, du côté de Sarian, dans le Vaucluse. Bonjour, Christophe.
Bonjour Estelle, bonjour à l'équipe, j'espère que vous allez tous bien.
Ben oui, et vous, dans le bâtiment, vous devez payer plein de taxes, Christophe.
Il n'y a pas que dans le bâtiment, que ça soit personnellement parlant ou même au niveau de l'entreprise. Je les compte même plus, hein, c'est pour dire, parce que je ne sais même pas ce que je paye. Donc on arrive à un moment où on est résigné.
D'accord.
À payer et puis à faire... c'est ce que j'expliquais à Thomas juste en amont, avant,
au standard,
avant
ouais.
de les avoir. Voilà. Mm-hmm. C'est que moi, ma petite expérience, entre guillemets... personnel, donc j'ai fait l'acquisition, enfin j'ai construit une maison.
Ouais.
Donc jusque là, comme c'est un peu le rêve d'une vie, hein, comme tout le monde, hein, j'en
bien sûr.
Dire. Et
bien
donc
sûr.
Avant, on avait ce qu'on appelait la taxe locale d'équipement, la TLE, qui s'est transformée en taxe d'aménagement.
D'accord.
Donc jusque là, pas de débat. J'ai payé 19 000 balles de taxe d'aménagement.
Ah oui, c'est énorme.
Voilà. Alors les gens diront, c'est une grosse maison, c'est machin. Enfin bref.
Bon, peu d'accord, mais enfin, c'est pas le problème.
Voilà, ce à ça, donc théoriquement, on est censé être exonéré pendant 2 ans de la taxe foncière, moyennant le remplissage d'un formulaire qui s'appelle le H1 pour permettre d'être exonéré pendant 2 ans de la taxe foncière. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait faire, entre guillemets, par le biais en accompagnement de l'urbanisme, de la commune, petite dédicace au passage, les gens se comprendront. Bref, et donc j'ai envoyé ce formulaire-là.
Ouais.
Chose où j'ai pas eu de retour, notamment par ça. Par contre, j'ai quand même eu ma première taxe foncière. Donc, que j'aurais pas dû payer, en règle générale. La première, elle était de 4500 balles.
Ah, quand même.
Donc, la première est de 4500 balles. Mais ça s'arrête pas là. Ça, c'est le début du fiasco. Donc, je retourne voir la commune en disant, vous m'expliquez pourquoi je dois payer. Ah, non, mais les délais de traitement sont un peu longs. Forcément, l'administration française.
Et bien sûr,
tout est toujours très, très long. Donc, c'est normal. Il faut attendre. Vous serez remboursé après. Pas de souci. Sauf qu'entre temps, je reçois la deuxième taxe foncière de l'année suivante. Et là, on passe de 4500 à 6650 balles.
Waouh. Ah oui, donc, vous avez payé, Oh là là. Vous avez payé 11 000 euros de trop, quoi.
Voilà, 11 000 balles, plus ces 19, on a 30 000
sur
2 ans.
Ah, ça fait, ah oui, ça fait quand même un gros manque à gagner, quoi.
Ah, bah oui, plus qu'un manque à gagner. Surtout qu'en plus, lorsque, moi, je suis pragmatique comme garçon, hein. J'aime bien comprendre les choses, donc j'aime bien comprendre ce que je paye. Et j'explique simplement à l'urbaniste, je leur dis, mais pourquoi on passe de 4500 à 6650 balles, en sachant qu'il n'y a rien qui a évolué sur la maison, hein. C'est toujours la même maison, le même plan, il n'a pas grandi, j'ai rien rajouté. Eh ben, on m'a dit que j'avais changé de catégorie, en fait, de la maison. Ah. Parce que les maisons sont catégorisées. Donc, ça aussi, il faut le savoir, hein. Donc, catégorisé, c'est des services fiscaux avec le biais de la commune, eh ben, qui, entre guillemets, qui catégorise votre maison, par rapport à une valeur locative et qui donne un indice multiplicateur pour pouvoir, eh ben, en tout cas, encaisser une taxe. Donc, ça, pareil. On n'a aucun levier, aucun moyen de discussion, aucun. On est obligé de subir tout ça. Et quand vous demandez un semblant d'explication aux services fiscaux ou même à l'urbanisme, ben on n'est pas en mesure de pouvoir vous répondre, en fait.
Non.
Donc, vous payez.
Merci Christophe, en tout cas pour cet exemple. Je pense qu'on aurait pu continuer deux heures avec, avec Christophe, mais malheureusement, bah, voilà, le temps nous est compté. Merci beaucoup Christophe, et on mesure quand même l'aberration de certaines taxes. Alors on vous a posé la question, 348 taxes en France. Est-ce que notre administration est devenue folle, Victor ?
Alors c'est un plébiscite, un grand oui à 96%.
Ah bah oui.
C'est
beau, ça. Eh bien, sachez que j'avais parié sur 98, donc je suis légèrement déçue. Qui sont ces 4%? Écoutez, qu'ils se présentent, nous les recevrons au téléphone dans un instant. Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur d'Estelle Midi. Et puis à 14h, appelez-nous si vous êtes parents. Faut-il forcer nos enfants à marcher? Nos enfants ne marchent plus, on les met sur des vélos cargo, sur des draisiennes, sur des globeurs, dans des poussettes. Bref, ils ne marchent plus et résultat, après, ils ne courent plus. Faut-il forcer nos enfants à marcher? On en parle à 14h, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite c'est le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt, les meilleurs messages
RMC, Estelle Midi.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
On était presque et paf Estelle.
Coupé dans mon élan, c'est fou. Alors j'allais dire les meilleurs messages.
Ah oui, merci.
Laissé au 32-16, j'allais faire un beau lancement, Pierre-Antoine.
Eh ben c'est loupé. Bon, tout le monde va bien, vous avez vu, ça y est, Clint Eastwood a pris sa retraite, il l'a annoncé ce week-end, 98 ans, et aussitôt Michel Drucker a réagi. Quel dommage d'arrêter si jeune. Sacré Michel. Hein, vous allez jusqu'à quand, Estelle? Vous avez déjà une date de...
Ça va dépendre d'RMC, tant qu'ils me garderont.
C'est vrai,
c'est beau ce que je dis.
Ah, c'est beau.
C'est pas mal.
Moi, je pense que vous allez être là jusqu'à 90 ans.
Non, je crois pas. Non, faut
un petit canapé rouge, sinon, peut-être sur...
Non, plus.
On s'écoute un message?
Allez,
c'est parti.
Ouais, bonjour Estelle, c'est Geoffrey de Paris. Bon, bah ça y est, Roland-Garros, c'est fini. Je suis un peu triste et pendant un an, je pourrais plus faire de pop 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 pop. Alors, vous savez ce qui me remonterait le moral? Ça serait que vous en lanciez un pour moi dans votre émission. Même
jamais.
Un tout petit, hein. Comme vous y êtes allé 34 fois cette année, je me disais que vous maîtrisiez le truc. Merci.
Allez Estelle.
Je mets un point d'honneur à ne pas répondre à ces gens qui font pop pop.
Mais on,
dans
le, on pourrait faire le plus grand de France.
Non.
Tous les gens qui nous écoutent chez eux, dans leur voiture, au travail, ils disent olé.
Allez-y si vous voulez, moi je ne suis pas ce pop pop. Mais vous pouvez le lancer.
Non, je ne le lancerai pas. Vous avez cassé un an. Pop 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 pop. Merci, vous voyez.
Vous n'aurez pas mon olé.
Vous n'aurez pas mon olé. C'est bon, on ne va plus l'entendre pendant un an. Voilà, c'est fini.
Ah bah tant mieux.
Fin de l'histoire.
Message suivant.
Oui, bonjour Estelle, c'est Dominique en direct de Monaco. Bon, voilà, j'ai vu Xavier Dupont de Ligonnès hier soir. Cette fois, c'est sûr, c'est lui. Alors, si les gendarmes écoutent, il est caché. Juste après le... Au niveau du croisement de... Voilà, ne me remerciez pas, c'est tout à fait normal. Bisous.
Ah là là, les Grands Prix en ville, hein, quel fléau. On n'est pas prêt de le choper, le Xavier en tout cas.
Message suivant qui nous vient de Paris.
Bonjour mon ami Estelle, c'est Jean-Phi, 23 ans, je participe à la marche pour Jésus organisée à Paris. Écoutez, là on est en bord de Seine, l'ambiance est super et je me sens touché par la grâce. Je sens que Jésus est en moi. Ah, attendez, il faut que je vérifie un truc.
Bah non, il y a que le taulier qui sait faire ça, hein, évidemment.
Et changer l'eau en vin.
Et surtout... Ah, sacré Estelle. Ah, là, je vous retrouve. Elle revient tout de suite aux fondamentaux, les basiques, c'est bien.
Allez, message suivant.
Oui, bonjour, Damien de Saint-Malo. Je viens de lire le livre d'Elisabeth Borne qui s'appelle « Réveillons-nous ». Eh ben, c'est exactement ce que j'ai fait après avoir lu les 5 premières pages. Voilà, allez, bisous.
D'ailleurs, on l'a reçu à la rédaction, le livre, et Estelle l'a immédiatement pris, non pas pour le lire, mais pour le mettre sur Vinted en vente. Il est parti ou pas?
Ça partira pas.
Ça part pas?
Bah, j'ai pas essayé, mais ça ne partira pas.
Non, un petit prix.
Vous voulez que j'essaye?
Allez, on essaye et on vous tient au courant.
Oui, mais je ne le mets pas à très cher.
Non, pas très cher.
Allez, message suivant.
Hey, salut Estelle, je suis Patrice, le producteur de Secret Story. Voilà, je voulais savoir si quelqu'un avait le numéro de Raphaël Glucksmann, parce qu'on voudrait lui proposer d'intégrer la maison avec le secret « Je suis de gauche ». Alors là, je peux vous dire que personne va trouver son secret.
Voilà,
c'est dur là quand même.
Il va gagner, il n'y a même pas de suspense. Qui va deviner ça? Personne.
Non, arrêtez. Allez, on termine avec un message de la plus fidèle des fidèles.
Coucou les chéris, c'est Françoise. Bon, le 6 juin, on commémore le débarquement de Normandie. Et pour moi, c'est une date spéciale. C'est le jour de la mort du père de mon premier enfant. Oh, je me souviens de lui comme si c'était hier. Il était beau. Il est tombé à Omaha Beach. Tu me manques, mon petit Heinrich.
Mais c'est horrible.
Sacré Françoise. Une vraie petite cachotière, celle-ci.
Mais c'est affreux.
Attends, mais... Allez, on embrasse.
Je sais pas vous si ne respectez rien.
On ne respecte rien. Et bon. On se retrouve demain, quand même.
Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur d'Estelle Midi tous les jours. Midi, 13h50 dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr. L'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, on se posera cette question. Faut-il forcer nos enfants à marcher? À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.